Bonjour à tous. Elle regrette vraiment de ne pas être là parmi nous aujourd'hui. Enfin, elle m'a encore envoyé des messages ce matin. Bon, c'est rien de grave, hein, mais voilà, elle a eu un petit accident de santé jeudi dernier. Elle est immobilisée chez elle pendant quelques semaines. Alors, je vais vous présenter du coup sa thèse qui a démarré donc en octobre dernier, donc à cheval sur le laboratoire EcoBio et l'INRA Bagap, enfin l'UMR Bagap de Rennes. Et qui s'intéresse au rôle de la dynamique temporelle sur les communautés d'adventices, donc au sein de systèmes bocagers, donc où la connectivité va être essentiellement apportée par le réseau de linéaires de haies. Alors, une des inquiétudes de la profession agricole face aux modifications de réglementation, donc notamment la baisse de l'utilisation des produits phytosanitaires, c'est des possibles difficultés de régulation. Des adventices donc, qui sont considérés pour la plupart comme, comme ayant potentiellement un effet négatif de par la compétition qu'elles peuvent avoir avec les espèces cultivées. Alors on sait maintenant que ces adventices peuvent avoir aussi des effets positifs en apportant différentes fonctions écologiques intéressantes pour l'agriculteur, notamment l'accueil de pollinisateurs, d'auxiliaires ou la protection des sols. Et ce que l'on va être intéressé de faire dans sa thèse, c'est notamment de comprendre en fait comment ces communautés d'adventices sont structurées au sein de l'espace et quel est le rôle des facteurs liés à la dispersion. Donc derrière ces facteurs liés à la dispersion, donc on a la notion de connectivité des paysages, donc comment la connectivité de ces paysages va jouer sur la dispersion des adventices et donc la colonisation des parcelles cultivées. Et au sein de paysages bocagers, tels que le contexte breton, on va avoir un système bocager qui est très dynamique, avec des disparitions de haies ou des réimplantations avec les programmes récents. Et ce qui nous intéresse, c'est de voir comment la dynamique de cette connectivité va influencer la dispersion de ces adventices et leur devenir, du coup, dans la parcelle. Et donc les conséquences en termes de services apportés par ces adventices. Alors, on va y faire le travail sur la zone atelier armorique où on a toute une série de bases de données sur le long terme de la structure du paysage et du réseau de haies. Et on s'intéresse à deux systèmes, donc les prairies temporaires de 6 ans et les cultures de blé. Alors, dans un premier temps, ce qui va être intéressant, c'est de surtout développer la modélisation de la connectivité et de sa dynamique temporelle. On n'a pas encore de méthode validée pour faire ça. Donc, ça va être vraiment un des premiers axes de la recherche. Donc, à partir des bases de données d'occupation du sol, donc sur toute la durée de vie de la parcelle, donc on a des bases de données annuelles de cette occupation du sol. Tout un premier travail qui a été réalisé cette année, c'est de bien caler les cartes, de faire de constituer la base de données et de la rendre exploitable pour de la modélisation de connectivité, donc qui a aussi démarré, donc c'est une modélisation des continuités boisées, donc basée sur les haies prairiales et cultivées, donc à partir de la théorie des circuits. Et on arrive par la suite, donc c'est beaucoup de calculs, à arriver à caractériser cette dynamique temporelle, donc à essayer de voir si au sein de la zone atelier, on a différents types de profils de dynamique de temporalité. Donc c'est un travail qui est en cours en collaboration avec Santiago Sora, qui est actuellement en Italie. Puis on s'intéresse donc à la présence des adventices dans les parcelles. Donc on a échantillonné cette année un gros travail de terrain également, 50 prairies temporaires et 30 cultures. Et ces parcelles ont été choisies à partir d'entretiens avec des agriculteurs. Donc il y a plus d'une centaine d'agriculteurs qui ont été mobilisés pour cette étude, de manière à standardiser le plus possible les conditions locales, donc conditions de gestion, de pratique, précédent culturel, etc. Donc ce travail de terrain, du coup, donne des résultats montrant une diversité importante, une gamme de variations importantes de la richesse en adventices dans les parcelles, donc de 9 à 35 espèces dans les parcelles de prairies et de 4 à 33 espèces dans les parcelles de blé. Et ce qui sera fait donc, à partir de maintenant, c'est d'analyser à partir de traits biologiques pris dans des bases de données, comment on peut comprendre la réponse de ces communautés d'adventices à cette dynamique de connectivité, donc en utilisant des traits liés à la dispersion ou à la résilience de ces adventices dans les parcelles. Afin de compléter la caractérisation Sur cette persistance dans les parcelles, on prévoit de réaliser une étude de banque de graines donc, cet hiver. Donc, un ensemble de carottes de sol sera réalisé dans chacune des parcelles, puis mis en sous-culture en serre. Alors, je ne sais pas si c'est la poule ou pas. Non, ce n'est pas la poule. D'accord, j'ai encore un petit peu de temps. Et puis le dernier axe, donc, qui sera fait l'année prochaine et puis lors de la dernière année de thèse, sera d'analyser le rôle de cette dynamique de temporalité, de connectivité sur les services associés à ces adventices. Donc ça va être la mise en relation entre les traits de ces adventices et des indicateurs de fonction écologique. Donc on va utiliser comme des proxys de ce fonctionnement écologique qui sera par ailleurs mesuré sur le terrain. Et le but, hein, donc, c'est d'avoir des indicateurs de fonctionnement liés aux adventices et de prédire leurs réponses en fonction de la dynamique de la connectivité. Cette connectivité donc, étant, si je résume tout, du coup, liée à la fois au réseau de haies, mais aussi à la trame cultivée, de voir la part relative apportée par chacune dans cette structuration des assemblages et leurs conséquences. C'est pas le même en Bretagne. Hein. donc dernière petite présentation, enfin diapo, c'est outre la valorisation scientifique, on est quand même aussi beaucoup investi dans le transfert des résultats auprès des acteurs. Donc là, dès cette année, Léa a présenté son travail lors du repas annuel qu'on organise dans le cadre de la zone atelier, donc auprès des agriculteurs qui ont été invités à ce repas. Et puis, on prévoit aussi des plaquettes de communication personnalisées donc pour donner à chacun de ces 100 agriculteurs le résultat sur sa parcelle et la place de cette parcelle par rapport au paysage global. Voilà, merci.
Merci beaucoup. Et tous nos voeux de rétablissement à Léa. Alors, moi, je voudrais vous demander, vous parlez de connectivité des paysages. On l'interprète, nous, intuitivement, par connectivité, par les haies, les bandes enherbées, des choses comme ça. Mais vous parlez dans le document de connectivité des parcelles céréalières, connectivité des prairies. Est-ce que vous pouvez nous préciser ça? Parce que, est-ce que c'est important que les parcelles de céréales soient connectées entre elles ou est-ce que c'est autre chose? On n'a pas bien compris.
Non, alors effectivement, ce n'est pas très clair. Donc, au départ, jusqu'à maintenant, on a considéré la connectivité comme étant une connectivité du paysage. Donc, généralement, on prend les différentes occupations du sol dans le paysage, on leur attribue un coefficient de perméabilité, donc d'aide au déplacement des organismes. On considère, par exemple, qu'un système un peu plus naturel va être plus perméable, plus favorable à la dispersion qu'un écosystème un peu plus impacté anthropiquement. Donc, par exemple, une culture sera moins favorable qu'un système naturel, pour vous résumer un petit peu l'idée générale. Là, on change complètement de vision. On va mettre à plat, on considère qu'un paysage, c'est différentes occupations du sol, et on va quantifier la connectivité apportée à chacun. On a démarré déjà ce travail-là avec le M2 de Léa, et ce qu'on démontre, c'est qu'en fonction des systèmes considérés, par exemple, les communautés d'adventices dans les prairies vont répondre à la connectivité des cultures. Et probablement, ce qui va être lié, ça va être le fait que la culture a une phénologie un petit peu différente de la prairie et certains organismes liés au déplacement des plantes, donc qui vont, par exemple les carabes, qui vont manger, qui vont se nourrir sur la communauté d'adventices, vont transmettre aussi les graines dans d'autres milieux. Donc, on va travailler sur ce premier point. Et un des autres résultats majeurs de son travail, c'est que les systèmes forestiers, donc les haies, parce que finalement, en Bretagne, on n'a plus trop de forêts, c'est vraiment ce linéaire bocager. Alors, je parle de la zone nord-Rennes, hein, où effectivement, les fragments forestiers sont devenus tout petits et c'est vraiment le réseau bocager qui va prendre le relais. Ben, eux vont être très favorables à la diversité de tout type d'écosystème, y compris les prairies ou les cultures. On pourrait s'attendre que les flores, en fait, sont quand même très différentes entre une flore de haies, surtout chez nous, c'est quand même plutôt des vieilles haies, et une flore de culture, d'adventice. Et en fait, on se rend compte que ces haies jouent un rôle de refuge. C'est les éléments les plus stables dans le paysage, même si, bien sûr, on a des modifications locales. Et elles vont avoir plus de rôle que sur la trame cultivée, alors que pourtant, les flores de base sont différentes.
Mais comment, dans cette approche, vous tenez compte du fait que la dissémination des espèces peut se faire par les fourmis, par les oiseaux, par le vent. Enfin, est-ce que l'approche globale de connectivité est adaptée à toutes les espèces adventices ?
Alors, c'est effectivement une bonne question, donc non. C'est pourquoi on développe cette approche de trait que j'ai indiquée dans l'axe 2. C'est qu'en fonction des vecteurs, ils ne vont pas forcément être favorisés ou pas par les mêmes éléments du paysage. Par exemple, une haie peut servir de barrière à des espèces qui vont être dispersées par le vent, parce que ça va rompre les éléments ouverts. Et là, a priori, on peut s'attendre à ce que la flore, à ce que la connectivité apportée par les champs de céréales ou de prairies soit plus favorable au déplacement de ces espèces, parce qu'il n'y a pas de rupture. Elles vont se déplacer sur de grandes distances, il n'y a pas de barrière au vent. Bon, en fait, on démontre que ce n'est pas vrai. On l'a déjà fait dans le rapport de stage de M2 de Léa. Mais on va effectivement affiner avec une approche trait pour séparer des syndromes de plantes qui auraient des stratégies qui pourraient répondre de manière différente à la connectivité de haies, par exemple. Par contre, les haies, pour les animaux, on sait depuis longtemps que ça aide au déplacement de ces animaux et donc, a priori, ça favoriserait le déplacement des espèces de haut corps.
Une question, je reviens sur la maille, parce que c'est important la maille. On a commencé à l'évoquer, mais selon vous, quelle maille culture prairie qu'est-ce que vous avez pu observer qui soit à partir de quelle maille on est favorable en culture prairie pour justement l'optimisation, la dissémination de ces services.
Alors la maille, c'est vous parlez de surface
Surface, prairie, culture, à partir de quelle, on parlait de connectivité, à partir de quelle surface ou quelle distance selon vous, est-ce que ça a été observé, est-ce que ça a été regardé, est-ce qu'on perd ces services?
Alors pour l'instant, ce qu'on a développé comme travaux dans le cadre de son M2, parce que c'est les seuls résultats qu'on a actuellement, on travaille sur de la similarité entre patch et donc on n'a pas d'indicateur de distance et a priori cette distance que l'on calcule n'est pas liée à la distance euclidienne. Donc du coup, il n'y a pas d'effet distance. Bon, il s'avère qu'on a toute une série d'autres projets portant sur la connectivité et où on démontre que les plantes vont se disperser sur des distances assez courtes dans des paysages aussi fragmentés. On a perdu la capacité d'avoir des vecteurs qui permettent la dispersion sur de longues distances, comme des mammifères ou des oiseaux qui ont des territoires plus larges ou qui ont des comportements de migration autres que leur mouvement quotidien. Et globalement, la distance de dispersion moyenne de réponse à la connectivité d'une plante, c'est autour de 200 ou 300 mètres. Donc les interfaces proches, en fait, entre systèmes vont être aussi très importantes.
Et ma seconde question, ça va être plus sur là aussi, peut-être une observation que vous avez pu faire ou une tendance en discutant avec ces agriculteurs. Est-ce que vous pensez que la rotation parcellaire, avec tout de même une tendance plutôt sur un assolement qui tend vers un peu plus de céréales, hein, ce qui est observé partout dans le Grand Ouest, a une incidence déjà observable sur la dissémination de ces adventices?
Alors certainement, donc on sait que certaines pratiques vont favoriser la sélection d'espèces qui produisent beaucoup de graines et donc qui du coup poseront des problèmes à terme sur des rotations. Par exemple, quand on passe en prairie, on va avoir des émergences d'espèces indésirables. Pour l'instant, on n'a pas vraiment de lien avec la connectivité. En tout cas, ce n'est pas du tout formalisé auprès des agriculteurs. Cette notion de connectivité, elle n'est pas du tout acquise pour l'instant. On est vraiment sur des pratiques locales. Et même en tant que chercheur, je pense qu'on n'a pas vraiment de réponse à la question. Et là, on est quand même dans le cas particulier où on force une durée de vie longue de la rotation. On est sur des prairies assez vieilles, finalement. On est à 6 ou 7 ans de prairies temporaires. Et même sur les champs cultivés, on a pris des cultures de céréales pendant 4 ans consécutifs. Donc on force vraiment sur des durées longues pour avoir un pool d'adventices qui reflète l'occupation du sol qu'on étudie.
J'avais une question sur la. Je ne sais pas si vous avez vraiment des éléments de réponse, puisque visiblement il y a eu une transmission de résultats qu'une seule fois. Mais si vous aviez pu sentir qu'il y avait une transformation aussi de la perception des adventices en termes de services et d'e-services par les agriculteurs, du fait même du projet, du fait même de s'intéresser avec autant de précision et d'attention à la diversité floristique, au mode de dissémination. Est-ce que vous avez pu sentir que ça éveillait un intérêt, peut-être une transformation des représentations, voilà.
Non, tout à fait. Alors, pas dans le cas de ce projet, parce qu'effectivement, il n'y a eu qu'une restitution. Mais dans le cas de la zone atelier, on a tous les ans ces repas annuels qui sont faits avec tous les agriculteurs qui sont mobilisés dans les projets de recherche. Et le fait de présenter nos résultats, alors parfois on ne présente pas très clairement finalement, hein, mais ça permet aussi pendant le repas d'échanger avec eux et en fait on voit tout à fait les mentalités qui changent, enfin les mentalités. Disons qu'une réappropriation de nos résultats auprès des agriculteurs, puis même réciproquement, en fait, pour nous, un réajustement parfois de nos questions de recherche par rapport à leurs attentes et à des points qu'on n'aurait pas vus, nous, en tant qu'universitaires, parce que finalement, on n'est pas très fort, entre guillemets, sur le travail des parcelles, etc. Et la réalité de terrain qu'eux vivent au quotidien. Alors, dans ce secteur-là, donc la zone atelier, c'est l'ensemble du département de l'Ille-et-Vilaine. On voit quand même, par contre, une sensibilisation plus facile au sud de Rennes avec des agriculteurs qui sont peut-être plus en lien avec avec la ville de Rennes. Donc, il y a par exemple plus d'agriculture biologique, il y a plus cette notion d'agroécologie, etc. Au nord de Rennes, où là, je pense que globalement, les difficultés sont autres et que les petites adventices dans les cultures, on est encore quand même dans le schéma où il faut les enlever pour faire pour assurer un rendement correct.
Oui, très concrètement, comme je ne vois pas, vous avez travaillé sur quel cortège ? Est-ce que c'était prédéterminé ou est-ce que c'est très exhaustif sur l'ensemble des adventices que vous aviez in situ ? Et si oui, justement, est-ce que vous avez mis en exergue des adventices qui sont caractérisées par le monde agricole comme extrêmement gênantes, avec des discussions assez fortes, je pense au Rumex, par exemple, et autres.
Non, tout à fait. Donc là, en fait, bah, y a quand même eu 3 mois de terrain par Léa. Donc, les personnes qui l'ont accompagnée. Donc, on en est juste à l'exploitation vraiment initiale des données. Et on a vraiment fait des relevés exhaustifs de toutes les adventices. Après, ce qui nous intéresse effectivement, c'est de voir avec les agriculteurs, on a quand même déjà des idées, les espèces qui leur semblent intéressantes, qui leur posent problème, de manière à pouvoir adapter la plaquette. Là, c'est un exemple de plaquette qu'on souhaiterait faire, c'est qu'on a un recul sur la communauté dans son ensemble, mais on va aussi pointer sur des espèces considérées comme indésirables pour leur indiquer combien ils en ont dans leur parcelle, est-ce que ça répond à la connectivité ou pas, enfin, les résultats concernant ces indicateurs-là. Et puis réciproquement, on fera aussi tout un travail de sélectionner quelques adventices qui sont dites bénéfiques et on fera aussi un focus sur ces espèces-là. Donc on aura cette double approche. Par contre, sur la partie plus scientifique recherche, on est moins sur ces indicateurs ciblés. Mais on le fera, bien sûr, pour la transmission des résultats.
J'avais une question. Moi, c'était plus au niveau gestion. Je voulais savoir, est-ce que vous avez déjà quelques résultats ou pu mettre en lumière une tendance de l'impact du mode de gestion, ces infrastructures agroécologiques, alors que ce soit les haies, mais également tout ce qui est bandes enherbées, etc., sur la dispersion des adventices et puis après, plus largement, sur les services écosystémiques.
Alors, dans le cadre de ce projet, on ne considère pas forcément la structure fine des haies. Ça va être fait en collaboration avec un projet européen qui est en cours dans le laboratoire, où effectivement, ce qu'on essaye de faire, c'est par des analyses de détection, donc sur des images radar et satellites, de caractériser la structure fine des haies, et puis avec des entretiens auprès des agriculteurs, de savoir ce qu'ils ont fait comme pratique, de manière à pouvoir se dire, une haie qui a telle structure, c'est tel type de gestion très fine, et de pouvoir l'implémenter dans nos modèles de connectivité. Pour l'instant, dans ces modèles de connectivité, c'est en gros présence ou absence de haies, et puis c'est surtout leur configuration spatiale qui est importante. Et on néglige quelque part la pratique fine de la haie qui joue un rôle hyper important sur, par contre, la capacité de ces haies à déplacer les adventices. Donc, c'est une première approche, mais qui peut être complétée par ailleurs par des résultats où là, on se focalise plus sur des échelles plus locales où on analyse le rôle de la structure de la haie sur, la quantité de graines, par exemple, qui tombent au sol, et parmi ces graines, lesquelles sont adventices. Et par contre, Léa n'aura pas le temps forcément de faire ça pendant sa thèse. Elle sera en collaboration sur d'autres projets où l'approche paysagère n'est pas développée.
Merci bien, c'était très intéressant. J'ai une question, vous avez mentionné Carab. Du coup, je me pose la question de... Est-ce que vous avez remarqué qu'il y aurait une structuration de l'espace qui favoriserait la prédation de ces adventices, autrement dit, oui. Est-ce qu'on pourrait faire des corridors à prédateurs naturels, ce qui est de la biologie de la conservation, en fait?
Alors, pour l'instant, il n'y a pas eu d'expérimentation là-dessus. En fait, dans le laboratoire, historiquement, tout un pôle qui s'intéresse au carab, donc on a beaucoup travaillé sur la question connectivité carab. Là, depuis une dizaine d'années, on est deux botanistes, donc on s'intéresse plus au rôle connectivité plante. Et puis maintenant, effectivement, il faut arriver à faire les interactions entre niveaux de la chaîne trophique. Ou des interactions entre compartiments. Donc ça n'a pas été fait. Par contre, ce qui a été fait, c'est d'analyser le taux de prédation, mais à des échelles locales. Et là, on se rend compte que la complémentarité dans l'espace de systèmes cultivés avec des systèmes de prairies, vous avez des mouvements de carabes et des taux de prédation d'adventices et probablement de dispersion de ces adventices. Alors je crois, oui, c'est des travaux de Jacques Baudry et de Françoise Burel.
Frédéric Brigand, donc je suis urbaniste à l'OSCOT de l'aire métropolitaine bordelaise. Vous me dire qu'est-ce qu'il vient faire ici. Je suis comme titulaire d'un BTS en GPN, donc j'ai quand même un intérêt, je dirais, certain pour la chose. Dans notre travail, on est amené à contrôler, à limiter l'étalement urbain. Et tout ce travail que vous faites sur la reforesterie, je n'ai pas votre approche scientifique aussi poussée, mais je trouve très intéressante. Et donc tout ce qu'on cherche à mettre en place, justement, c'est mettre en place des systèmes pérennes aux abords des villes. Parce que la protection juridique, c'est une chose, le maire change, les communes changent, et la ville finit par grignoter les espaces agricoles. Et tout à l'heure, ça a été évoqué, cette idée que il fallait 20 ans, ça a été évoqué pour qu'il y ait des résultats significatifs. Donc nous, on travaille, enfin, c'était plutôt un appel, pas au secours, mais un appel à travailler avec vous, sur comment on pourrait mettre en place justement des systèmes pérennes aux abords des villes qui résisteraient, parce qu'il y aurait des fonctions, comme vous avez évoqué, écosystémiques. Donc là, on a parlé de l'agriculture, bien sûr, mais tout ce qui est des arbres têtards. Donc là, on est sur l'énergie. Pareil aussi, maintenant, on a une prédation, on va dire, de la ville sur les espaces agricoles en termes de bois énergie. Il va falloir aussi être vigilant. C'est comment constituer donc des espaces qui sont du coup résistants et résilients à cette consommation des sols. Et là, ce dernier point, cette dernière slide m'a vraiment intéressé, parce que vous avez, dans votre travail de recherche, vous allez au-delà, c'est-à-dire que vous commencez déjà à travailler avec les agriculteurs. Donc il y a une insémination, en tout cas une diffusion forte. Je veux savoir d'où venait cette culture justement d'associer les agriculteurs de façon aussi vaste et je dirais aussi façon aussi vulgaire pour être un petit peu provocateur.
Alors il y a beaucoup d'éléments, donc je vais répondre sur deux choses. Le premier, donc c'est sur tout ce qui est connectivité en ville, c'est une question qui est travaillée au sein de notre labo depuis maintenant 5 ans. Et je pense qu'il peut y avoir des démarrages de résultats sur comment réinstaurer des systèmes, notamment liés à la trame verte dans ces systèmes urbains. Donc on travaille beaucoup sur la ville de Rennes, où on analyse comment mettre en place les systèmes semi-naturels dans la ville pour permettre le déplacement des organismes, la résilience de la biodiversité, etc. Donc ça, si vous êtes intéressé, je peux vous donner les contacts. Donc c'est pas moi, mais de collègues qui font ça. Et sur le deuxième point, donc sur la culture d'échange, c'est fondamental parce que bon, on peut toujours faire son projet de recherche dans son coin, entre guillemets, ou avec sa communauté, et puis échantillonner à l'extérieur sans discuter avec personne. Mais bon, d'une part, on est quand même sur des propriétés privées pour la plupart, donc il faut quand même un minimum d'interaction avec les gens qui la possèdent et qui font plein de choses dessus. Bon, ça, c'est... Mais c'est surtout qu'en fait, parfois, on ne se pose pas forcément les bonnes questions ou selon des systèmes réalistes. En fait, on est dans notre discipline, donc moi, je suis en écologie. L'agronomie, j'ai quelques notions, mais loin d'être aussi réaliste que les pratiques au quotidien d'un agriculteur. Et si on veut que nos résultats servent, il faut prendre en compte ce quotidien. Il faut que ça soit utile parce que finalement, on est là pour ça. On n'est pas là juste pour s'amuser dans nos labos à trouver des résultats. Et il faut que ça serve quand même à notre société. Donc ça, c'est un premier point. Et puis aussi parce que en faisant ça, on sensibilise aussi avec nos mots, alors parfois pas forcément très adaptés. On a toujours un vocabulaire un peu compliqué par rapport à des concepts qui sont finalement très simples, parce que l'agriculteur, il des concepts d'écologie, il les pratique, même s'il ne le sait pas, forcément, ou qu'il n'a pas formalisé sous forme de ces concepts-là. Et le fait d'échanger, au final, petit à petit, lui comprend un petit peu mieux ce qu'on fait et prend conscience de certains éléments qui peuvent être intéressants à long terme pour sa pratique. Et puis réciproquement, nous, on est plus dans un système réaliste. Et puis bien sûr, il y a plein de limites. Hein. L'agriculteur, il a surtout en ce moment plein d'autres préoccupations qui sont loin de l'écologie. Et c'est peut-être un peu plus difficile aussi de sensibiliser sur certains aspects qui lui semblent mais complètement à l'autre bout. De ses besoins actuels, mais c'est un travail qui est long. Donc je pense qu'il faut le faire. Et puis quand on travaille sur un territoire, de toute façon, on travaille avec les gens. Et si on veut préserver notre capacité à continuer à travailler sur ce territoire et apprendre des choses, il faut aussi travailler avec les gens qui travaillent.
Et justement, quand vous avez présenté les résultats là aux agriculteurs, quelle a été leur réaction, les questions qu'ils ont posées, leur surprise peut-être?
Alors là, en fait, il n'y avait pas vraiment de surprise parce que pour tout vous dire, Léa, elle a passé 3 mois sur le terrain et il y a eu cette phase d'enquête auprès des entretiens, d'entretien auprès des agriculteurs qui a pris à peu près 1 mois et demi et en fait, tout le monde la connaissait. Alors la petite aux yeux bleus. Et donc, on n'a jamais eu autant d'agriculteurs au repas, donc ce qui est aussi une conséquence.
C'est un gros biais scientifique quand même.
Oui. Il faut sélectionner des filles plutôt. Non, je plaisante. Non, mais du coup, c'est vrai que là, il y a le facteur humain, en fait. Et là, le fait de l'avoir rencontrée plusieurs fois, parce qu'en plus, elle se paumait dans le territoire, donc souvent, elle allait voir les mêmes agriculteurs pour demander la même chose. Où elle s'est même... elle s'est embourbée dans un fossé. Enfin, bref, voilà, c'est normal, quoi. Du coup, ils étaient hyper curieux de savoir à quoi ça servait finalement toutes les questions qu'elle avait posées et pourquoi elle avait passé des heures le nez dans l'herbe à regarder les plantes, quoi. Et du coup, je pense que voilà, ça fait partie de la transmission et ils ont été hyper intéressés.
Jean-Charles me disait, si jamais vous l'invitez, il y aura plus d'agricultrices sans doute. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions?
Bonjour. Donc, alors moi, je fais partie un peu étranger dans l'histoire parce que je fais partie d'une association pour la protection de l'environnement et de la biodiversité m'intéresse. Je suis un petit peu à ce titre-là. J'avais une question par rapport à ce que j'ai compris du sujet. Je m'excuse d'avance, peut-être si la question est naïve. C'est que la dynamique temporelle des différents adventices, est-ce qu'elle n'est pas directement impactée par la capacité de propagation de chaque plante, qui est certainement différente les unes par rapport aux autres, sur l'échantillonnage d'une trentaine d'espèces que vous évoquiez?
Non, tout à fait. En fait, c'est vrai qu'actuellement, quand on parle de connectivité, de lien connectivité-biodiversité, on considère que le paysage il est à l'équilibre et que quand on modifie, quand on rompt par exemple un corridor, que ça a tout de suite un impact. Et en fait, c'est pas vrai. Et notamment pour les plantes, parce que les plantes ne bougent pas. Elles bougent uniquement par les graines. Et parfois, par exemple, une plante forestière, elle met 100 ans pour se déplacer et aller coloniser une nouvelle forêt. Donc, on a beau restaurer la forêt, elle est super accueillante. N'empêche que les plantes n'arriveront pas dans cette forêt. Il faudra attendre des dizaines d'années pour qu'elles y arrivent, parce qu'elles ont une stratégie de dispersion qui n'est pas du tout optimale, quoi, qui est inefficace au possible. Donc là, l'intérêt, c'est justement, avec cette approche trait que je mentionnais, c'est de voir quelles espèces sont hypersensibles, parce que justement, en termes de dispersion, elles n'y arrivent pas. Et donc, dès qu'on aura des paysages trop fragmentés, ça aura des conséquences importantes, peut-être pas immédiates, mais sur le long terme. Et puis, quelles sont les espèces qui, finalement, se dispersent assez bien? Donc, une restauration peut avoir des conséquences rapides. Donc, c'est vraiment ces questions-là, d'intégrer le délai de réponse des organismes, soit dans la colonisation de nouveaux sites, mais soit aussi dans leur disparition potentielle, parce qu'elles mettent plusieurs années à se rendre compte, entre guillemets, que le paysage a changé autour, et à y répondre.
Bien, écoutez, merci Sandrine. Il y avait encore une question, Christian? Sans micro?
Merci. Non, non. Non, mais par... Ouais. Alors, on est quand même sur des prairies temporaires qui sont assez pauvres. Donc, souvent, les adventices intéressantes ne sont pas finalement très abondantes. Les principales préoccupations qu'ils vont avoir, c'est les rumex, les chardons, enfin des choses qui, généralement, quand c'est là en abondance. Donc, ce qu'on a déjà commencé à quand même initier, c'est que, par exemple, bah, que certaines petites dicotylédones à fleurs pouvaient être intéressantes par leurs fleurs. Et à partir du moment où le recouvrement est faible, finalement, bon, bah, il prend le message comme ça. Après, je ne sais pas si voilà, il va considérer après, à l'avenir, cette petite dicotylédone comme étant hyper bénéfique. Alors, bah pour l'instant, non, parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant, on travaille plutôt sur les prairies. Et finalement, bah le rendu, on peut leur apporter. On a fait déjà des présentations là-dessus en disant que quand la matrice prairiale est diversifiée, généralement, le lait est de meilleure qualité ou ça permet d'avoir une meilleure complémentarité de la ressource. Donc ça, c'est des choses qu'on a déjà initiées ou sur lesquelles ils sont plutôt favorables. À partir du moment où il n'y a pas de chardon ni de rumex, enfin des espèces vraiment importantes pour eux. Sur la partie céréales, c'est vrai qu'on commence tout juste. Pour l'instant, on ne s'est pas vraiment intéressé à ces milieux-là sur notre territoire. Donc, je ne sais pas, probablement, ça posera problème. Ouais. Bah, c'est des prairies très fleurées gras, ouais. Mais qui sont assez vieilles, donc qui sont quand même maintenant un petit peu plus enrichies en espèces.
Bien, merci Sandrine.